Nous sommes dans une période où, bon, liturgiquement, on appelle cette période la période d'avant, la période qui nous prépare à célébrer Noël. Et depuis le dimanche passé, nous avons commencé des enseignements qui nous ont rappelé que Dieu, il est le Dieu qui accomplit toujours ses promesses. Le Seigneur nous a promis un sauveur et c'est ce que nous sommes en train de célébrer encore une fois dans cette période. Et aujourd'hui, nous allons continuer sur cette note-là qui nous prépare, les enseignements qui nous préparent pour la célébration de Noël. Et nous allons inviter Papa Jérémy qui va nous conduire dans ces moments de prédication sous nos applaudissements. Et lui-même va prier pour le message.
Dieu capable de faire tout ce qu'il dit, il fera, il accomplira. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas, il fera. Est-ce qu'on peut encore les chanter? Dieu est capable. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera, il accomplira, il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas, il fera. Oui, Seigneur, c'est avec ces refrains que nous venons devant toi encore une fois ce matin ou cet après-midi pour te dire merci. Merci, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui accomplit ses promesses. Merci, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui est capable. Nous ne sommes pas en train de prier vers un Dieu qui n'est pas capable, mais un Dieu qui est omnipotent, qui a toute la puissance, toute la gloire entre ses mains et qui est capable de changer le cours de nos vies. Maintenant que nous voulons écouter de ta part, Seigneur, nous prions que tu puisses encore une fois préparer nos cœurs afin qu'ils soient cette terre fertile, Seigneur, sur laquelle tu vas planter cette parole. Et cette parole, Seigneur, va porter des fruits et des fruits qui demeurent. Merci, ô Dieu de gloire. C'est dans les noms précieux de Jésus que nous te prions. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Amen. Comment cela se fera-t-il? C'est la grande question de cette saison. Et je sais que beaucoup de gens se posent cette question. Des fois, quand on est en train de regarder sa vie, il y a certaines personnes qui sont dans leur famille et ils se disent, comment est-ce que je peux relever le niveau économique de ma famille? Comment cela se fera-t-il? Il y a d'autres personnes qui ont le désir d'étudier, le désir de pousser plus loin dans leurs études. Mais quand ils regardent un peu l'état de leur famille, l'état un peu des personnes qui doivent payer pour elles les études, ils se posent cette question, comment cela se fera-t-il? Il y a d'autres personnes qui ont peut-être déjà eu tous les diplômes qu'il faut, mais dans un environnement où à plus de 80%, il y a un taux de chômage, on se demande, mais comment cela se fera-t-il? Comment je vais me retrouver? Comment je vais avoir un boulot? Comment je vais m'en sortir dans cet environnement avec toutes les statistiques qui ne sont pas en ma faveur? Vous vous êtes déjà posé cette question? Comment cela se fera-t-il? Il y a d'autres personnes qui étudient, mais difficilement. Et elles sont aussi en train de se poser cette question. Comment cela se fera-t-il? Comment je vais finir? Et il y a d'autres personnes qui aspirent au mariage, n'est-ce pas? Ils aspirent au mariage, ils prient, ils demandent à Dieu, en tout cas, j'ai besoin de quelqu'un. Et d'autres sont en train de chercher quelqu'un. Les hommes cherchent, les femmes attendent, mais elles se posent la question, comment cela se fera-t-il, n'est-ce pas? C'est la grande question, vraiment, c'est la grande question. On peut même aller à une dimension plus profonde où on se dit, il y a d'autres personnes qui ont du mal. Quelqu'un t'a fait du mal, quelqu'un t'a blessé. Quelqu'un t'a vraiment traité d'une manière dont tu te demandes, mais comment est-ce que j'arriverai à pardonner à cette personne? Comment cela se fera-t-il? Un peu plus profond, il y a d'autres personnes qui souffrent des addictions. Ils ont essayé, comme ils pouvaient, d'arrêter certaines mauvaises habitudes, certains vices, Mais ils ont essayé en vain. Ils souffrent toujours de l'addiction à la pornographie. Il y en a d'autres qui souffrent de l'addiction à l'alcool. Et ils se demandent comment cela se fera-t-il? Comment est-ce que je vais me libérer de ces chaînes? Comment cela se fera-t-il? Il y a d'autres personnes qui sont peut-être dans des relations toxiques. Tu t'es retrouvé quelque part avec quelqu'un, vous avez évolué, mais après tu viens te rendre compte qu'au fond, cette personne n'était pas celle à qui tu t'attendais. Elle est en train de changer au fil du temps et tu te dis, mais comment je vais quitter cette relation? Comment cela se fera-t-il? D'autres personnes ici sont en conflit avec peut-être un parent, un familier. Ils sont en conflit avec quelqu'un et ils sont en train de se dire, comment est-ce que nous pourrions restaurer cette relation? Comment cela se fera-t-il? C'est la grande question de la saison. Amen. C'est la grande question. Il y a un homme de Dieu qui a vécu dans le 19e siècle. Il s'appelait George Mueller. George Mueller, c'était un évangéliste anglais. Et l'une des particularités du ministère de George Mueller, on dit que c'était quelqu'un qui priait à propos de chaque chose. Il pouvait se réveiller, il voit le matin quelque chose qui n'est pas en train de marcher. Et son premier réflexe, c'était de prier. On nous dit que dans son histoire, au cours de son ministère, c'est quelqu'un qui a encadré plus de 120 000 orphelins. Il a établi des orphelinats à travers l'Angleterre qui existent même jusqu'à aujourd'hui. Mais une des particularités de cet homme, c'est que c'était un homme qui avait une foi inébranlable, une foi vraiment yakitoto en Dieu. Il croyait vraiment que Dieu pouvait changer même les situations les plus terre à terre qu'on peut rencontrer dans la vie. On nous raconte qu'une fois, il était avec ses enfants à l'orphelinat et ce jour-là, il n'avait pas à manger. Alors lui, dans sa foi, là, sa grande foi, il a seulement préparé, il a apprêté la table. Il a mis les plats, il a mis les couverts, il a mis les couteaux, il a mis tout ce qu'il fallait là-bas. Et les enfants lui ont demandé, « Ok, je vois que tu viens de nous appeler, tu viens d'apprêter la table, mais où est la nourriture ?» Et George Mueller, il a seulement prié à Dieu, il a dit à Dieu, « Seigneur, tu vois combien je suis très occupé à te servir. Je suis très occupé à faire ce que tu m'as appelé à faire. » Et il a dit à ses enfants-là, même si nous ne voyons pas la nourriture ici, rendons seulement grâce. Disons merci à Dieu pour la nourriture qu'il va nous donner. Et donc, il a commencé à prier. Il a dit, Seigneur, merci parce que cette table, nous allons la quitter rassasiée. Et après qu'il ait prié, il a dit, Amen. Et après, ils ont attendu quelques secondes et il y a quelqu'un qui a toqué à la porte. Cette personne, au fait, c'était le boulanger du coin de leur avenue. Et ce boulanger est venu, il a dit, en tout cas, j'ai quelques pains ici, parce que hier, quand nous avions vendu, nous n'avons pas tout vendu. Et généralement, nos clients n'aiment pas les pains, yenye ishalala. Et donc, j'ai pensé que je peux apporter ça ici pour que vous puissiez les partager. Et c'est comme ça que Dieu a miraculeusement pourvu ces jours-là à ces enfants-là. Amen. Et quand j'étais plus jeune, au fait, j'espère que vous êtes en train de suivre les cours de ma pensée. Même vous, quand nous étions plus jeunes, quand on pensait à Noël, quand on passait à ces festivités ici, pour nous, Noël était synonyme de la fête des enfants, n'est-ce pas? C'était synonyme de nouveaux vêtements, c'était synonyme de vacances chez les familiers, n'est-ce pas? On était vraiment impatients d'arriver à Noël, très impatients parce qu'on savait qu'il est si cool. Batatouzi, Angozi, Ngamupia, je vais aller chez mes cousins pendant les vacances. Pour moi, c'était aussi une saison où il y avait des beaux films, des nouveaux films. Je n'oublierai jamais Noël 2000. C'était cette année-là que L'âge de la glace était sorti. C'est un dessin animé. L'âge de la glace, il y a eu le bossu de Notre-Dame. Et donc, ce jour-là, j'avais passé une nuit comme ça au salon, en train d'attendre parce que ce film-là était programmé sur Canal Plus à 23h, hein, à la veille de Noël. Et il fallait que je reste au salon. Et donc, c'était ça vraiment pour nous, Noël. C'était ça, c'est comme ça qu'on concevait vraiment cette grande fête. Mais généralement, aujourd'hui, nous voulons, plus on grandit dans sa foi, plus on comprend que ça a une plus grande ramification. Plus on comprend que, en tout cas, c'est un rendez-vous avec Dieu. Noël, ça nous rappelle de quelque chose que Dieu a accompli, quelque chose qu'il a accompli, mais aussi ça nous rappelle que c'est un Dieu qui sera encore capable d'accomplir bien plus de choses parce qu'il a, encore une fois, tenu une des plus grandes promesses qu'il a faites à travers les temps. Amen. Plus nous grandissons, plus nous nous rendons compte que Noël, ce n'est pas seulement les bling-bling, ce ne sont pas seulement les lumières, mais c'est aussi la célébration d'un Dieu qui est si puissant et si grand et qui, par amour, se rapproche de nous de la manière la plus palpable. Il y a beaucoup de gens à travers le monde qui cherchent toujours quel est le chemin pour se rapprocher de Dieu. C'est très difficile parce que Dieu, c'est un Dieu qui se révèle. Et à Noël, on se rappelle que ce Dieu-là s'est révélé de la manière la plus palpable, la plus proche, la plus touchable. Il est devenu l'un d'entre nous. Noël, c'est aussi quelque chose qui nous rappelle de ce Dieu qui accomplit ses promesses. Ça, nous l'avons vu le dimanche passé. Peu importe la longueur du temps, peu importe les siècles qui se sont succédés, Dieu a accompli ses promesses. Dans les passages que nous allons lire dans Luc chapitre 1, il y a un homme qui s'appelait Zacharie et qui priait pendant longtemps. Il était déjà devenu vieux, il attendait à ce que Dieu puisse lui donner des enfants, mais il n'en avait pas. Mais Noël, la naissance de Jésus, au fait, c'est aussi quelque chose qui nous rappelle que peu importe la durée, peu importe peut-être ce que tu peux percevoir comme retard dans la réponse à tes prières, ça ne veut pas dire que Dieu les a rejetés. Peu importe le temps que ça peut prendre, ça ne veut pas dire que Dieu a rejeté tes prières. Parce que ce jour-là, Zacharie a eu la visite de Dieu. Et Dieu lui a dit, c'est pourquoi tu as prié, va être accompli. Mais aussi Noël, c'est un moment qui nous rappelle que nous servons un Dieu de l'impossible. Un Dieu de l'impossible. Un Dieu qui est capable de faire infiniment au-delà de ce que nous pouvons imaginer ou même penser. Un de mes théologiens préférés, il s'appelle Tozer, il a dit un jour que la chose la plus importante à propos de nous, c'est ce qui nous vient à l'esprit quand nous pensons à qui est Dieu. La chose la plus importante à propos de nous, c'est ce qui nous vient à l'esprit quand nous pensons à qui est Dieu. Parce que quand notre connaissance de la personne de Dieu va influencer la manière dont nous allons vivre, mais aussi va influencer notre façon de voir la vie, notre façon de voir le monde, notre façon d'agir aussi, notre façon de prendre des... Parce que si on voit Dieu comme ce petit Dieu-là qui est à notre niveau, on va aussi marcher avec un niveau-là rabaissé. Mais si on voit Dieu comme un Dieu qui est grand, qui est capable de faire infiniment au-delà et qui a déjà fait, parce que le miracle même de la naissance de Jésus, c'est quelque chose d'inimaginable, si on peut dire ça. Il y a eu beaucoup de gens qui ont douté, ils se sont dit, mais comment est-ce qu'une vierge a pu mettre au monde? C'est déjà quelque chose d'inconcevable dans l'esprit des hommes, petits comme nous, n'est-ce pas? Parce que nous voulons toujours avoir des faits, la science, ainsi de suite. Mais le Noël, la naissance de Jésus, c'est aussi quelque chose qui nous rappelle que nous servons un Dieu de l'impossible. Rien n'est impossible à ce Dieu-là. Et c'est le thème de notre message cet après-midi, ok? Cet après-midi. Et nous allons lire ensemble dans Luc chapitre 1, verset 26. On dit, au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle situation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu y as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé le Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il ? » C'est la question du jour, n'est-ce pas ? Comment cela se fera-t-il ? Puisque je ne connais point d'homme. L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, et là, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois. Car rien n'est impossible à Dieu. » Verset Luc chapitre 1, 37. Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. On se pose cette question, comment cela se fera-t-il? Parce que généralement, on regarde seulement à nous-mêmes. On regarde seulement à nos capacités. On regarde seulement à ce que nous sommes capables de faire. On regarde seulement à notre environnement. On se dit, bon, moi, je vis dans ces pays, mais comment cela se fera-t-il? Comment est-ce que des personnes d'influence peuvent quitter une région qui est en proie au conflit depuis plus de 30 ans? Comment est-ce que des personnes qui vont impacter peut-être même tous ces continents peuvent sortir d'un endroit aussi petit que celui-ci? Cette question, on se la pose seulement quand on regarde dans nos propres capacités, quand on regarde dans notre environnement, quand on se limite à une vision qui est à nous-mêmes. Mais quand on va au-delà de nous-mêmes et qu'on regarde dans un Dieu qui est capable, on se rend compte que oui, ce n'est pas par nos propres forces, mais c'est par sa puissance, parce que c'est un Dieu de l'impossible. Rien ne lui est impossible. Et beaucoup d'entre nous peuvent penser que non, pour pouvoir peut-être voir la puissance de Dieu, pour pouvoir vraiment les miracles et les grandes choses que Dieu doit accomplir dans nos vies, il fallait peut-être qu'on naisse dans des endroits un peu plus stables, n'est-ce pas? Il fallait peut-être qu'on soit dans une famille un peu plus stable. Il fallait peut-être qu'on soit dans un quartier un peu plus aisé, n'est-ce pas? On pense ça. Mais l'histoire de Noël nous rappelle aussi que notre Dieu, c'est un Dieu paradoxal, au fait. C'est un Dieu dont la puissance se manifeste à travers les faiblesses. Vous avez déjà lu dans 2 Corinthiens chapitre 12, quand Paul est en train d'écrire à propos de ses faiblesses. Et il dit quelque chose de très intéressant là-bas, parce qu'il se rend compte que c'est dans ses faiblesses, au fait, que la puissance de Dieu fait quoi? Elle se manifeste. Je vais vous les lire très rapidement. Et vous allez comprendre pourquoi je cite ces passages. Paul lui-même dit, « Trois fois j'ai prié le Seigneur, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 8, le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit où? Dans la faiblesse. » Et Paul lui-même dit, « Je me glorifierai donc plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Je me glorifierai dans ma faiblesse. C'est un paradoxe, parce qu'on ne s'attend pas à ce que quelque chose de grand puisse venir des origines humbles, d'un endroit à conflit, ainsi de suite. Je me rappelle qu'il y a quelques années, j'étais au Kenya et je m'étais, disons, établi, quoi. J'étais à une position que peut-être beaucoup de gens enviaient. Mais à un moment, il fallait que je rentre ici, chez nous, au Congo. C'était en 2017, en décembre. Et beaucoup de gens m'ont posé la question, vraiment? Onarudia, tu rentres, you're going back. Et certaines personnes ici me disaient, mais qu'est-ce que tu vas venir faire ici? N'est-ce pas? Quand on regarde un peu les pays avec tous les challenges qu'il y a, ainsi de suite. Et j'ai dit à l'église là-bas, là où je servais, j'ai dit, en tout cas, il est temps. Dieu vient de me convaincre qu'il faut que je rentre. Je n'avais pas d'argent. Vous savez, là-bas, quand tu travailles à l'église, ce ne sont pas des masses que tu gagnes chaque mois. Hein. C'est juste de quoi subvenir aux besoins du jour au jour, ok? Et ce jour-là, Dieu, pendant notre dernière réunion, ma dernière réunion avec l'Église, on a prié ensemble. Ils ont annoncé que voilà, Jérémy va rentrer au Congo. Son vol est déjà réservé et nous allons prier pour lui et nous allons aussi faire une offrande pour quelque chose qui va l'accompagner. Et donc, tous les staffs, ils ont tous remué leur portefeuille. Ils ont pris quelques coins. Vous savez, là-bas, ils utilisent encore la monnaie. Et en tout, quand j'avais compté après, je me suis rendu compte qu'il valait Nézaka $100, moi et les réunions. Et donc, ce jour-là, le 19 décembre 2017, j'avais mon ticket de l'avion retour et $100 en poche. Mais j'ai rentré chez moi sans savoir exactement qu'est-ce que je viens faire. Comment cela se fera-t-il? Et avec tout ce que les gens avaient déjà annoncé, on a joué à Goma, tu sais, ça fait longtemps que tu n'y as pas été. Il faut encore se reconnecter avec les gens d'ici, ainsi de suite. Comment cela se fera-t-il? Mais quand je regarde toutes ces années, comment Dieu a agi encore et encore, je me rends compte qu'au fait, on s'entend souvent au miraculé dans les endroits peut-être où on a réponse à tout, mais au contraire, on n'a pas besoin de miracles quand on a réponse à tout. Au contraire, les miracles s'accomplissent à des endroits les plus inattendus vraiment. Et ça, c'est le premier point du message de ce matin. Parce que la Bible nous dit que Marie, quand elle reçoit ce message, Ce n'est pas une fille de Jérusalem. Si Dieu est si grand, si Dieu est si puissant, il était tout à fait capable de faire à ce que son fils naisse dans une grande ville, n'est-ce pas? Comme à Jérusalem, n'est-ce pas? Je pense que vous avez tous déjà vu un film qu'on appelle Independence Day. Quelqu'un a déjà vu Independence Day? C'est un des meilleurs films de Will Smith. Et moi, je me dis, si j'étais Dieu, si j'étais le Dieu Tout-Puissant, j'aurais envoyé mon fils comme ces aliens-là, ces extraterrestres qui étaient venus sur Terre dans Independence Day. Parce qu'ils étaient venus dans des grands vaisseaux vraiment très impressionnants. Si j'étais le Dieu Tout-Puissant, c'est comme ça que j'allais envoyer mon fils sur Terre. Mais non, notre Dieu est un Dieu de paradoxes. Parce qu'il sait que, en tout cas, on n'a pas besoin de bling-bling, on n'a pas besoin d'avoir réponse à tout pour expérimenter des miracles. C'est aux endroits les plus inattendus, où nous avons même du mal à imaginer qu'il y aura des solutions, que les miracles s'accomplissent. Parce qu'on n'a pas besoin de miracles si on a réponse à tout. On nous dit que Marie n'était pas de Jérusalem, elle n'était pas non plus d'une famille aisée. C'était juste une fille humble qui vivait dans une petite ville qu'on appelait comment ? Nazareth. Nazareth. Essayez juste d'imaginer une ville du Congo, Yenihawi, Sikeakata, Salamabila, par exemple. C'est de là qu'elle venait. Pas même à Goma, quelque part là-bas, Yenihawi, Sikeakata. C'est là que Dieu choisit de faire quoi ? De choisir quelqu'un qui va faire quoi ? Qui va concevoir son fils. Parce que c'est aux endroits les plus inattendus, d'où nous avons du mal à imaginer une solution, que le miraculé s'accomplit. Nazareth était une ville très négligée. Je ne sais pas si vous avez déjà lu le livre de Jean, chapitre 1, verset 45. Quand Philippe rencontre Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Et vous savez ce que Nathanaël a répondu? Il a dit, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Les endroits les plus inattendus, les plus négligés. C'est bien là que Dieu choisit de faire quoi? De sortir des personnes solutions. Pour les salut du monde entier, imaginez. Et je vois beaucoup de gens qui se disent, « Ah, à cause de l'Ikimbi à Inch, peut-être que je devrais fuir cette province, peut-être que je devrais peut-être aller m'établir ailleurs. » Mais je crois que Dieu, le Dieu des miracles, nous a établis ici pour un temps comme celui-ci. Pour que nous soyons aussi des personnes solutions, parce que c'est aux endroits les plus inattendus. Et les miracles s'accomplissent. Amen. Ça, c'est le premier point de notre message. Et beaucoup d'entre nous peuvent même ne pas être fiers de leurs origines. Ils peuvent même ne pas être fiers de leur place de résidence ou du simple fait d'être né ici, d'être appelé Congolais, de la famille dont ils font partie. Mais aujourd'hui, je viens nous rappeler à travers l'histoire de la Noël que qui sait si Dieu n'a pas voulu qu'il en soit ainsi dans ta vie, pour que tu sois un canal de transformation et de restauration là où tu te trouves maintenant. Parce que c'est aux endroits les plus inattendus que les miracles s'accomplissent. Amen. On n'a pas besoin de miracles quand on a réponse à tout. On n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Deuxième chose, c'est que les prodiges de Dieu ne sont pas commandés à volonté. Elles sont les fruits de sa faveur. Quand on pense à un Dieu de l'impossible, un Dieu des miracles, on pense, on regarde, on s'imagine un peu ces personnes ici qu'on voit aux médias sociaux. Et puis les gens tombent à gauche, comme ça, et les gens tombent si je veux. Vous voyez un peu tous ces prédicateurs-là, hein, comme s'ils ont vraiment une onction spéciale et qu'ils peuvent commander la puissance de Dieu volontiers. C'est comme s'ils ont le monopole de la puissance de Dieu. Mais aujourd'hui, nous lisons dans cette histoire que quand l'ange s'est présenté devant Marie, voici ce qu'il a dit. L'ange a dit, « Je te salue. Toi à qui une grâce a été faite. » Une grâce lui a été faite, une faveur imméritée. Ça veut dire que nous tous ici, on est candidats aux grâces et aux miracles que Dieu peut accomplir. On n'a pas besoin d'être ces personnes-là spéciales, on n'a pas besoin d'être vraiment, hein, de regarder à ces hommes de Dieu-là, ces grands prophètes-là qui se sont déjà appropriés les monopoles des miracles. Mais ici, ça nous rappelle, cette parole nous rappelle que nous sommes tous candidats à la grâce et à la faveur de Dieu et aux prodiges qu'il peut accomplir à travers des personnes ordinaires comme vous et moi. Amen. Elles sont fruits de sa grâce, de sa grâce. Elles ne sont pas commandées à volonté, elles sont fruits de sa faveur. Et donc, nous y sommes tous candidats. Parce que la grâce ne choisit pas l'origine. La grâce ne choisit pas les statuts. La grâce ne choisit pas si tu es le plus élancé ou le moins élancé. Non, la grâce est une faveur. Et cette grâce, Noël nous rappelle qu'elle est étendue à toutes les personnes. Une petite fille de Nazareth, une ville oubliée, négligée, et c'est vers elle que cette grâce s'est présentée ces jours-là. Et même toi, même si tu te sens oublié, même si tu te sens négligé, tu te sens peut-être un peu en dehors de cette grâce-là, rappelle-toi que la grâce, justement, elle ne choisit pas. Elle se présente à qui elle veut. Amen. Elle se présente à qui elle veut. Qui elle veut. Nous sommes tous candidats. Nous sommes tous candidats. Ce ne sont pas des choses qu'on commande à volonté. Au contraire, Dieu choisit qui il veut. Il fait faveur à qui il veut, en son temps, quand il veut et où il veut. Où il veut. On n'a pas besoin d'être très loin là-bas. On regarde des fois les personnes qui vont à l'extérieur du pays prendre des selfies. On pense peut-être que c'est eux qui vivent la belle vie. Mais je viens vous rappeler que la grâce, c'est où Dieu le veut, avec qui il veut et quand il veut. Autre chose. Donc, je veux dire, les prodiges de Dieu ne sont pas commandés à volonté. Elles sont les fruits de sa faveur. Il les donne quand il veut, où il veut et à qui il veut. Dieu n'utilise pas seulement une catégorie spéciale de personnes. Il y a des personnes qui viennent ici et nous regardent, peut-être nous qui passons devant, et vous pensez que nous sommes des personnes là très spéciales, n'est-ce pas? Des personnes peut-être qui ont quelque chose de très particulier. Mais je peux vous dire encore et encore, tout ce que nous sommes, c'est les fruits de la grâce de Dieu. Et cette grâce, elle est disponible même pour toi aujourd'hui. Elle est disponible même pour toi aujourd'hui. Amen. Troisième point, c'est que la toute-puissance de Dieu se manifeste à ceux qui, par la foi et en toute humilité, se soumettent à lui. Toute-puissance de Dieu se manifeste à ceux qui, par la foi et en toute humilité, se soumettent à lui. Quand nous lisons ce passage, nous voyons Marie qui reçoit le message de l'ange. Elle reçoit le message de l'ange et on nous dit qu'elle est troublée par la parole. Elle se demande qu'est-ce que ça peut bien signifier, cette salutation. Et après, l'ange lui dit tout ce que le Seigneur va accomplir au travers d'elle. Et elle dit, mais comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Elle n'a pas demandé, est-ce que vraiment ça c'est possible? Non, elle a demandé comment. Parce qu'elle savait que Dieu est capable, mais elle s'est dit, comment maintenant? Quel est le processus? Et l'ange lui répondit que le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Et sa réponse, elle dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » C'est une réponse de foi, une réponse de soumission. Une réponse d'humilité, de soumission. Amen. Parce que rien ne réjouit autant le Seigneur que de voir ses enfants répondre par la foi ou bien poser des actions de foi. La foi est très grande et elle réjouit beaucoup le Seigneur. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 11, verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de faire quoi? De lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Il y a deux fois dans la Bible, je ne sais pas si c'est seulement deux fois, mais il y a deux endroits dans la Bible où j'ai lu que Jésus était étonné. Jésus était étonné. Et ces deux fois-là, c'était toujours à des choses liées à la foi. Il a été étonné par l'incrédulité des personnes de chez lui, mais il a aussi été étonné par la foi d'un centurion. La foi très agréable à Dieu. Répondre avec foi et soumission, en tout cas, c'est une des choses qui nous donne accès à la toute-puissance de Dieu. À la toute-puissance de Dieu. La Bible dit dans Matthieu chapitre 18, verset 8, « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Parce que faith is big. La foi est grande aux yeux de Dieu. La foi est grande aux yeux de Dieu. La foi nous permet de prendre possession de ce que la grâce a rendu disponible. Quand l'ange s'est présenté devant Marie, il lui a dit, « Tu es gracieux. » Qu'est-ce qu'il a dit en français? « Je te salue, toi qui as une grâce, toi à qui une grâce a été faite. » Et essayez un peu d'analyser ce passage. Vous vous rendez compte que Marie, on lui dit qu'elle a une grâce avant même qu'elle ne conçoive le Messie. Avant même que le Saint-Esprit ne vienne sur elle, elle a déjà une grâce, elle a déjà cette faveur. Ça veut dire que la grâce, ce n'est pas quelque chose pour laquelle on travaille, non, n'est-ce pas? C'est une faveur. Et même dans l'histoire de Marie, on le voit. Mais pour que les choses, la puissance de Dieu puisse encore une fois être manifeste dans sa vie, il fallait sa réponse de foi. Parce que la foi prend possession de ce que la grâce a rendu disponible. La foi prend possession de ce que la grâce a rendu disponible. C'est comme une porte. On t'a déjà donné quelque chose, mais pour que tu puisses y accéder, tu dois ouvrir cette porte-là. Et c'est ta foi qui te donne accès à ce que la grâce a rendu disponible. Vous êtes en train de comprendre? Sa soumission a rendu évident dans sa vie ce que la grâce avait déjà rendu disponible. L'ange venait de lui dire, elle avait le choix de dire non, cherche quelqu'un d'autre. Vous l'avez déjà vu, n'est-ce pas, dans l'histoire de plusieurs personnes que Dieu a approchées. Moïse en est un exemple. Moïse lui-même a dit, cherche quelqu'un d'autre. Le prophète Jérémie est un autre exemple. Quand le Seigneur l'a approché, il a dit, non, je suis trop jeune. Mais le Seigneur lui a dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Et quand on croit, quand on répond avec soumission et foi, c'est alors qu'on a accès à la puissance de Dieu. Toutes les grandes décisions de foi ont toujours avec elles de grandes manifestations de la puissance de Dieu. Je vous ai parlé un peu de mon histoire. Je ne vais pas donner les détails, mais quand je regarde les 5 dernières années, en tout cas, je dis, il faut avoir la foi. Il faut avoir le courage d'agir par la foi. Parce que Dieu est capable de faire infiniment au-delà. Ce n'est pas parce que nous sommes les plus forts, mais c'est à cause de lui, parce qu'il est le Tout-Puissant. Un Dieu de l'impossible. Amen. Autre chose avec la foi, c'est que quand on croit que Dieu est capable de faire ce qu'il a dit, qu'il fera, c'est une bénédiction pour nous. Il n'y a pas de plus grande bénédiction que de croire que Dieu est capable de faire ce qu'il va faire. Vous savez, quand Marie rencontre sa cousine Élisabeth, en Luc chapitre 1, verset 45, Élisabeth lui dit, « Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » La bénédiction commence à partir du moment où on croit. À partir du moment où on croit que Dieu est celui qu'il dit qu'il est et qu'il est capable de faire ce qu'il a dit qu'il fera. C'est là même la clé, le début de la bénédiction. Quand Élisabeth a dit « heureuse », c'est le même mot que Jésus a utilisé quand il parlait de béatitude. Il dit « heureux, ceux qui vont faire ça hein? ».« Heureux, makarios », ok, c'est le grec, « makarios ».« Heureux, heureux, béni », en fait une autre traduction c'est « béni, blessed », »,« béni sont ceux qui ». Et quand Marie a crié, Élisabeth elle-même dit « tu es heureuse parce que tu as fait quoi ?»« Tu as cru ». Que Dieu est capable de faire toutes les choses qu'il t'a dites. Noël, ce ne sont pas seulement les habits, ce ne sont pas seulement des nourritures spéciales, mais c'est un appel à croire. À croire que Dieu est capable. Parce qu'à partir du moment où on commence à croire que Dieu est capable de transformer nos vies, que Dieu est capable d'agir même dans l'environnement où nous nous retrouvons, Dieu nous appelle déjà comment ? Bénis. Nous sommes déjà bénis. C'est une grande bénédiction. C'est une grande bénédiction. Mais cela ne veut pas dire pour autant que notre vie sera plus facile. Parce que quand on dit oui à Dieu, on dit aussi oui à tous les défis qui viendront en cours de chemin. Imaginez un peu le courage de Marie. Quand elle dit oui, ça veut dire qu'elle est prête aussi à faire face à l'étonnement que les gens auront quand ils vont voir une fille qui n'est pas encore mariée et qui est enceinte, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'elle fera face à toutes les rumeurs qui vont circuler sur elle. Où on va dire, mais hé, où les maris, tout le monde, on a un peu sérieux et tout, et ainsi de suite. Mais elle a pris le courage de dire oui. Son oui à Dieu, c'était aussi un oui à tous les risques qui venaient avec la décision qu'elle venait de prendre. Comprenez ça? Mais Dieu est capable. Dieu est capable. Parce que tous les risques qu'on dit, qu'on prend pour Dieu, en tout cas, on ne les regrette jamais. Chaque risque que tu prendras pour Dieu dans les temps, tu ne les regretteras jamais. Personnellement, je ne regrette jamais tous les risques que je prends pour la gloire de Dieu. Et je suis toujours très ouvert à prendre des plus grands risques. En fait, c'est un appel à faire quoi? À sortir de sa zone de confort, à ne pas être satisfait de ce qu'on a vu accomplir, mais à s'attendre toujours à plus. Prendre des plus grands risques. Prendre le risque de dire, bon, ok, c'est vrai qu'on a aussi des difficultés en famille, mais nous allons offrir cet argent, nous allons donner ça pour l'œuvre du Seigneur. C'est de tels risques. où on va dire, c'est vrai qu'on a beaucoup de choses à faire, on a beaucoup de préoccupations, on doit chercher ça et là, mais on va prendre le temps de servir le Seigneur, de passer du temps dans sa présence. C'est le genre de risque dont je suis en train de parler. Parce que chaque risque que tu prendras pour Dieu, en tout cas, il te payera au centuple. Au centuple. It's worth it. C'est ça ce qu'on dit en anglais. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Parlons un peu d'humilité pendant que nous sommes en train de conclure. Dieu, dans sa souveraineté, je l'ai dit encore une fois, pouvait bien choisir de faire naître son fils dans une grande ville, dans une famille riche. Mais le principe du royaume ne change pas. Parce que le livre d'Ésaïe, en chapitre 57, verset 15, nous dit « Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés. » Ça, c'est Dieu qui se décrit comme quelqu'un qui est très haut et dans la sainteté. « Mais je suis aussi avec l'homme contrit et humilié, avec un homme qui a un esprit humble, un esprit d'humilité. » Afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. En fait, Dieu agit toujours de la même manière à travers l'histoire. Dieu ne choisit pas ceux qui ont une très haute opinion d'eux-mêmes. Parce que quand on est plein de soi-même, on n'a pas de place pour Dieu. On n'a pas de place pour Dieu. Dieu choisit toujours ces personnes-là qui se disent, « Ah, Seigneur, moi, non, je suis le plus petit. » de ma tribu. Je suis le plus petit de ma maison. Ça, c'est Gédéon, n'est-ce pas? Ou Moïse qui dit, non, je ne sais pas parler, en tout cas, non, envoie quelqu'un d'autre. Ou Jérémie qui dit, non, je suis le plus petit, je ne suis même pas très grand, je suis encore trop jeune pour ce genre de service. Mais Dieu utilise toujours les choses folles du monde, n'est-ce pas? Pour confondre les choses les plus intelligentes. C'est toujours comme ça que Dieu agit. Parce que quand on est plein de soi-même, on n'a pas de place pour Dieu. L'humilité, ce n'est pas se négliger, non, mais c'est penser à soi-même moins, ok? C'est savoir aussi reconnaître ses limites, parce que c'est quand on reconnaît ses limites qu'on se tourne vers Dieu et on lui dit, en tout cas, aide-moi. Parce que les personnes qui ne reconnaissent pas qu'elles ont des limites, ce sont ces personnes-là qui se blessent et qui se fatiguent trop vite. Mais au contraire, ceux qui se tournent vers Dieu dans leurs limites, ce sont celles qui voient sa toute-puissance agir. Amen. On n'a pas de place pour Dieu quand on est plein de soi-même. Dieu choisit toujours les personnes qui n'ont pas une très haute opinion d'eux-mêmes. C'est à travers ces personnes-là qu'il agit. Parce que quand les gens vont te regarder, ils vont dire, « Ah, oui, il faut là, ni tout. » Ça ne peut être que Dieu. C'est là même qu'on sait dire que, en tout cas, gloire à Dieu. Parce qu'on ne s'est jamais entendu à ce que ce soit à travers tel Don Juan. Avec ces coiffures-là un peu extravagantes, Dieu peut agir à travers un type comme ça. En tout cas, ça ne peut être que Dieu. Ce n'est pas la puissance de Dieu, ce n'est pas son charisme des dons, ce n'est pas parce qu'il est éloquent, non. Ça ne peut être que Dieu. Dieu choisit toujours les choses les plus folles, les plus inattendues, n'est-ce pas, pour manifester sa toute-puissance. Et même Marie, je pense qu'en grande partie, Dieu l'a choisie parce qu'elle n'avait pas une très haute opinion d'elle-même. Luc chapitre 1, verset 48 dit, c'est Marie qui est en train de chanter un cantique de louange à Dieu. Elle-même dit d'elle-même, « J'ai béni le Seigneur parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse. » Elle-même reconnaît qu'en tout cas, je ne suis même pas digne. Je suis d'un petit village, une ville méconnue, mais Dieu vient de me choisir. Et toutes les nations vont dire que je suis comment? Je suis bienheureuse. Toutes les générations. C'est ça même l'humilité. Ça veut dire que toi là, tant que tu penses que tu as des réponses, que tu peux faire ces choses par toi-même, que tu peux peut-être résoudre les problèmes de la famille par toi-même, que tu peux peut-être trouver ce travail par toi-même, je pense que tu n'as pas encore compris que tu n'es pas très capable en fait. Tout ce que nous avons est fruit de la grâce de Dieu. C'est vrai qu'il peut nous donner des habiletés et ainsi de suite, mais il y a des personnes qui sont très intelligentes, mais qui tournent encore dans cette ville. Qui tournent encore, qui cherchent encore. Mais quand on reconnaît que Seigneur, oui, c'est vrai, j'ai ça, j'ai déjà acquis telle ou telle connaissance, je connais telle, mais je crois qu'à 100%, ça dépend aussi de toi et de ta grâce dans ma vie. Et tu vas voir, you will watch him do it. Amen. Dernière chose. Dieu est capable de tout, ça nous avons dit, mais il choisit de manifester sa puissance en fonction de ses desseins et de sa nature. Quand on dit que Dieu est tout puissant, il y a des personnes qui disent en tout cas, Seigneur, je crois que tu es tout puissant et je te demande de tuer tous mes ennemis. N'est-ce pas? On peut faire ce genre de prière. On dit tu es puissant et tu es capable de faire quoi? De les éteindre tous, n'est-ce pas? De les éteindre tous. Mais Dieu n'agit pas comme ça. Il manifeste sa puissance selon ses desseins, selon sa nature. Et on connaît que dans la nature de Dieu, il y a l'amour, il y a aussi la compassion, mais il y a aussi la justice. Et c'est lui qui sait que quand je dois appliquer la justice, quand je dois appliquer la miséricorde, quand je dois appliquer telle ou telle autre chose, toujours conforme à ma nature. Et si Dieu a choisi Marie, c'était justement pour ces desseins-là, ces desseins que ses fils-là, c'est lui qui sauvera son peuple du péché. Amen. Alors, comment est-ce qu'on accède aux faveurs et à la grâce de Dieu? Ça, c'est une question qu'on doit se poser. Parce que quand l'ange est venu devant Marie, l'ange lui a dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie s'est demandé de ce que pouvait signifier une telle situation. Cette salutation. Et l'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » J'ai dit que Marie n'avait pas encore conçu Jésus quand on lui a dit qu'elle venait d'obtenir la grâce de Dieu. Parce que la grâce, c'est une faveur imméritée, n'est-ce pas? Mais elle est liée à quelque chose de grand. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé un match. Il y a des fans de sport ici, des gens qui regardent les matchs. Dans la plupart des sports, le basket, le football, il y a ce qu'on appelle la mi-temps, n'est-ce pas? La mi-temps, c'est un moment où les équipes arrêtent de jouer. Elles vont dans leur vestiaire et le coach, il est là en train encore une fois de faire quoi? De leur donner des indications. Il leur dit, voilà, vous allez faire ça, jouez encore comme ça, placez-vous, ainsi de suite, et ainsi de suite. Et moi, je crois que cette période, tout le temps qu'on vient ici, à l'église, tout le temps qu'on écoute un message d'un homme de Dieu, tout le temps qu'on écoute quelque chose de la part de Dieu à travers sa parole, à travers je ne sais qui, c'est la mi-temps. C'est la mi-temps. Parce que beaucoup de gens regardent un peu leur vie et ils regardent un peu cette année peut-être qui est en train de s'écouler et ils n'en sont pas fiers, n'est-ce pas? C'était comme une première mi-temps et on s'est dit, en tout cas la manière dont je jouais, cette première mi-temps, elle n'était pas du tout bonne, n'est-ce pas? Il y en a des personnes comme ça. Et je suis venu vous rappeler aussi que Noël, c'est quelque chose qui nous rappelle que Dieu a divisé l'histoire en deux. Il y a un avant et il y a un après. Aujourd'hui, nous parlons des après Jésus-Christ. Et cette même division peut aussi être les refrains de ta vie. Parce que dans la mi-temps où nous sommes en train d'écouter ces messages ici, nous sommes en train de vous redonner encore une fois cette perspective pour vous dire que même si cette année n'a pas été celle à quoi tu t'attendais, même si certains objectifs tu ne les as pas atteints, même si certaines choses n'ont pas marché comme tu le souhaitais, c'était juste quoi? Une première mi-temps. Ok? Maintenant là, nous sommes en train de faire quoi? De te donner encore une fois des directives et de te dire que tu peux prendre un nouveau départ. Il peut y avoir un avant, un après. Et cet après-là est meilleur. Le meilleur reste encore à venir. C'est ce que Noël doit encore nous rappeler. Que Christ est venu et il a divisé l'histoire en deux. Et ton histoire peut aussi être divisée en deux. Les choses passées vont passer et le meilleur va rester à venir. Parce que là, quand tu t'associes à Dieu, tu vas jouer dans la victoire. Amen. Pas pour la victoire. Tu vas jouer dans la victoire. Et ces choix-là, tu peux les faire aujourd'hui, dans la mi-temps, où nous sommes en train de te donner ce message pour dire, Seigneur, Dieu est là, il est capable de te transformer. Tu étais peut-être en train de se poser cette question-là, comment cela se fera-t-il, n'est-ce pas? Il y a des personnes qui se posaient, j'ai parlé de beaucoup de choses ici. Il y a d'autres personnes qui sont préoccupées, elles se demandent, mais comment cela se fera-t-il? Je viens de finir l'école secondaire, je suis telle part, j'ai telle aspiration, je vais me marier. Il y a des personnes pour qui j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, aide cette personne à trouver une bonne personne, une personne qui te craigne. Et je vois d'autres jeunes gens qui sont sérieux, mais ils n'ont pas encore les moyens de s'établir, n'est-ce pas? Parce que ça demande aussi des moyens pour qu'on puisse s'établir, n'est-ce pas? Et j'ai prié pour ces personnes, je me dis, Seigneur, cette personne-là, donne-lui tout le nécessaire qu'il lui faut pour passer à un autre stade de sa vie. Et je crois que ce n'est pas par nos propres forces que cela se fera. Mais si nous nous associons à ces dieux-là, c'est Dieu qui est capable, pour qui rien n'est impossible. Je crois que la seconde mi-temps sera meilleure que la première. Amen. Elle sera meilleure que la première. Et donc, c'est un appel à nous tous ici, à nous associer à Dieu. Les messages que je viens de partager, je vais encore une fois ramener ça. Je vais redire les points que j'ai dit. J'ai dit que la toute-puissance de Dieu ne se manifeste pas quand on a réponse à tout, quand on est aux endroits peut-être les plus favorables, non. C'est justement aux endroits les plus défavorables que les miracles s'accomplissent. Ça, c'était la première chose que j'ai dite, n'est-ce pas? Et j'ai dit que nous devons collaborer avec Dieu. Marie a dit qu'il me soit fait selon ta parole. C'est une question de foi, c'est une question d'humilité, c'est une question de soumission. Où on dit, oui Seigneur, je sais que cette décision va venir avec ses risques, mais comme c'est toi qui l'as dit, alors je vais te suivre. Alors je vais agir selon ça. Et c'est là qu'on prend des risques, c'est là qu'on sort de sa zone de confort. La foi prend des risques. Ce sont des risques auxquels je vous appelle. Autre chose que je suis en train de dire, c'est que Dieu manifeste sa puissance selon ses desseins et sa nature. Et vous pouvez vous joindre au dessein de Dieu aujourd'hui. Et la première étape, c'est croire. C'est toujours croire que Christ est Seigneur et Sauveur. Qu'il a été envoyé dans ce monde pour faire quoi? Pour nous donner un temps, une mi-temps, une deuxième mi-temps qui est meilleure que celle du passé. Pour nous donner un avant et un après lui. Un avant et un après lui. Et cette décision, tu peux la prendre aujourd'hui. Tu peux dire, Seigneur Jésus, viens et fais de ma seconde mi-temps meilleure que c'est la première. Et il est capable de le faire. Amen. Il est capable parce que c'est le Dieu de l'impossible. Nous allons incliner nos têtes dans la prière et nous allons demander à Dieu de nous aider. C'est ce que nous croyons encore une fois cet après-midi. Nous croyons que tu es un Dieu qui est capable d'accomplir tout. Tu es le Dieu qui a créé la terre et l'univers à partir de rien du tout, Seigneur, à partir du vide. Seulement par la puissance de ta parole, Seigneur, tu l'as fait. Et pendant que nous sommes en train de nous approcher de cette commémoration de la naissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus, nous sommes rappelés de ces grandes choses. Nous sommes rappelés, Seigneur, que nous n'avons pas besoin d'être dans des environnements favorables pour voir tes miracles s'accomplir. Mais que bien au contraire, si tu nous as placés là où nous sommes, c'est pour un dessein. C'est pour que le monde entier puisse voir comment, Seigneur, tu es un Dieu de paradoxes. Comment, Seigneur, tu es capable d'agir même aux endroits les plus inattendus, Seigneur, et de soulever et de créer, Seigneur, des personnes qui seront des solutions pour les problèmes les plus pressants de ce monde. C'est ma prière, Seigneur, pour chacun d'entre nous ici cet après-midi. Je crois, Seigneur, que beaucoup d'entre nous peuvent être là en train de se négliger, en train de négliger peut-être leur famille d'origine, leur environnement, ces pays qui n'est connu que pour les conflits, la pauvreté, la corruption. Mais je crois, Seigneur, que c'est à des endroits comme celui-ci que les miracles s'accomplissent. Ce n'est pas quand on a réponse à tout, Seigneur, que nous voyons tes miracles, mais bien au contraire, ils sont appelés des miracles parce que c'est ta main puissante qui agit à travers nous, Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur, nous prions que ta main puisse encore une fois agir ici. Je prie également pour mon frère, Seigneur, qui a besoin, Seigneur, de dire non à lui-même, de renoncer à lui-même. Parce que Seigneur, tu dis que tu es le Dieu puissant, le Dieu élevé, Seigneur. Mais tu agis également à travers les humbles. Ceux qui n'ont pas une très haute opinion d'eux-mêmes, Seigneur. Ce sont ces personnes que tu choisis. Ce sont ces personnes, Seigneur, en qui tu agis pour manifester ta toute puissance au Dieu de gloire. C'est ma prière pour quelqu'un aujourd'hui, Seigneur. Peut-être qu'il s'est enfermé le cœur. Peut-être qu'il a cru qu'il pouvait trouver solution au problème auquel il fait face, au problème de sa famille par lui-même, Seigneur. Mais ma prière, Seigneur, est que toute personne qui est ici avec un défi puisse se tourner vers toi, puisse prendre les risques de la foi, de te servir et de faire de toi, Seigneur, sa priorité. Et montre-lui, Seigneur, que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent, ô Dieu de gloire. Éternel Dieu, nous continuons à prier, Seigneur, que nous soyons également ces personnes qui alignent leurs priorités et leur vie à tes desseins, Seigneur. Parce que tes desseins, Seigneur, n'échouent jamais. Tes desseins, Seigneur, Seigneur, viennent toujours, arrivent toujours à s'accomplir. C'est pourquoi, Père, nous prions que tu puisses encore une fois nous aider à nous aligner à tes desseins, mais aussi, Seigneur, à essayer, à toujours essayer encore et encore, à essayer d'être un peu plus comme toi chaque jour, Seigneur. Parce que quand ta nature se manifeste en nous, c'est alors que nous devenons ces personnes qui marchent dans ta faveur et dans tes prodiges, ô Dieu de gloire. Merci Seigneur, parce que ce que tu as fait dans le passé, tu es capable de le faire aujourd'hui et tu vas le faire encore demain, ô Dieu de gloire. Je prie pour quelqu'un ici qui n'a jamais crié au nom de Jésus, Seigneur. Je prie, Père, que tu puisses l'aider, Seigneur. Je prie, Père, que tu puisses l'aider à prendre cette décision aujourd'hui. Ces messages que nous écoutons chaque dimanche, au jour les jours, Seigneur, ce sont des instructions, Seigneur, qui vont nous aider, Seigneur, à prendre un nouveau départ, afin que les jours à venir, Seigneur, enfin, Seigneur, que notre après Jésus-Christ, Seigneur, soit meilleur, Seigneur, parce que ça sera une marche avec toi. Ça sera une marche où tu vas nous accompagner et tu vas nous montrer combien de fois, Seigneur, tu es le maître de notre histoire et tu es capable de transformer même les personnes les plus inattendues, ô Dieu de gloire. Merci, Seigneur, parce que tu vas le faire. Merci, ô Dieu de gloire. Car c'est dans le nom précieux de Jésus que nous te prions avec acclamation. Amen. Amen.